Chapitre 12. Christopher Paulet. L'or éparpillé. Pas si gentil que ça. Préparatif. 1. Je ne me souviens pas de ce que je ressentis à cet instant, mais je me souviens de ce que je pensais. Rumpelstiltskin pointe une arme sur ma nuque.
« Y'a quoi là-dessous ?»«
Hein ?»«
T'as très bien entendu. T'en as passé du temps dans ce trou, je commençais à croire que t'étais mort. Alors, y'a quoi là-dessous ?»
Une autre pensée me traversa l'esprit. « Il ne doit pas savoir. Personne ne doit savoir. »«
Une pompe à eau ?»
C'était la première chose qui m'était passée par la tête.
« Une pompe à eau ? Vraiment ?»«
Oui, sinon quand il pleut, le jardin est inondé et ça coule dans la rue. » Mon cerveau s'était remis en marche.
Elle est vieille et je suis descendu voir s'il fallait faire venir un employé municipal pour qu'il jette un coup d'œil. Quelqu'un du service des fouteuses.
Il y a quoi là-dessous pour de vrai?
De l'or?
Non, juste une pompe.
Te retourne pas, petit. Ce serait pas malin, vraiment pas. T'es descendu examiner une pompe à eau avec un gros calibre?
À cause des rats. J'avais la bouche très sèche. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des rats.
Encore des foutaises? Y a quoi là-bas, dans le coin? Encore une pompe à eau? Bouge pas. Regarde juste à droite.
Je tournai la tête et vis le corps en décomposition de l'énorme cafard qu'avait tué M. Boditch. Il n'en restait pas grand-chose. J'avais épuisé mes maigres capacités d'imagination, alors je répondis que je ne savais pas. D'ailleurs, l'homme que je comparais à Rumpelstiltskin s'en fichait. Il ne pensait qu'au butin.
Peu importe, on va aller s'occuper du coffre du vieux. Et peut-être qu'après on ira voir cette fameuse pompe à eau. Allez hop, dans la maison, petit. Et si jamais tu fais du raffut dans le jardin, je t'explose la cervelle. Mais avant ça, tu vas te soulager de ce flingue, mon pote. Et le laisser tomber par terre.
Je me penchai en avant pour dénouer les cordons de l'étui. Aussitôt, le canon de l'arme appuya contre l'arrière de mon crâne, violemment.
Je t'ai dit de te baisser? Non. « Défais la ceinture, c'est tout !»
J'obéis. L'étui, toujours attaché à ma cuisse, bascula. Le revolver tomba sur le sol du cabanon.
« Tu peux la remettre maintenant. Chouette ceinture, ha ha !»
À partir de maintenant, je vais arrêter un peu avec tous ces « ha ha !» parce qu'il le répétait tout le temps comme une sorte de ponctuation verbale. Permettez-moi juste de préciser que c'était très rumpelstiltskinien. Autrement dit, flippant.
Tends-toi maintenant.
Il se retourna en même temps que moi. On aurait dit deux figurines dans une boîte à musique.
Tout doux, mon gars, tout doux.
Je sortis du cabanon. Il m'emboîta le pas. Dans l'autre monde, le ciel était chargé, mais ici, il faisait soleil. Je voyais nos ombres sur le sol, son bras tendu et la silhouette d'un pistolet dans la silhouette de sa main. Mon cerveau avait réussi à enclencher la seconde, mais il était encore loin de la troisième. Je m'étais fait avoir en beauté. On gravit les marches de la véranda de derrière. Je déverrouillai la porte et en entrant dans la cuisine, je me souviens d'avoir pensé à toutes les fois où je m'étais retrouvé là sans me douter que le moment de m'y retrouver pour la dernière fois viendrait si vite. Car ce type allait me tuer. Ça ne faisait aucun doute. Mais c'était impossible. Je ne pouvais pas le laisser faire. Quand j'imaginais des gens découvrant l'existence du puits des mondes, je savais que je ne pouvais pas le laisser faire. Quand j'imaginais la police ou l'armée en train d'envahir le jardinet de la femme aux chaussures, terrorisée, je savais que je ne pouvais pas le laisser faire. Quand j'imaginais toutes ces personnes déferlant dans la cité abandonnée et réveillant ce qui y était endormi, je savais que je ne pouvais pas le laisser faire. Hélas, je ne pouvais pas l'en empêcher. J'étais coincé. Ha ha. 2. On monta directement au premier. Moi devant, et cet enfoiré de Rumpelstiltskin derrière moi. J'envisageais de me balancer en arrière subitement pour le faire dégringoler jusqu'en bas de l'escalier, mais je m'abstins. Ça pouvait marcher, mais dans le cas contraire, il y avait de fortes chances que je meure. Si Radar avait été là, malgré son âge, elle se serait jetée sur Rumpel, et sans doute qu'elle serait déjà morte.
« On va dans la chambre, mon gars. Celle où il y a le coffre. »
J'entrai dans la chambre de M. Boditch. « Vous avez tué M. Heinrich, n'est-ce pas ?
Quoi ? J'ai jamais rien entendu d'aussi idiot. Ils ont arrêté le type qui a fait le coup.
Je n'insistais pas. Je savais. Il savait. Et il savait que je savais. Je savais d'autres choses également. Premièrement, si j'affirmais ne pas connaître la combinaison du coffre et si je persistais dans ce mensonge, il me tuerait. Le deuxièmement était une variante du premièrement.
Ouvre le placard, petit.
J'obéis. L'étui du revolver, vide, battait contre ma cuisse. Vous parlez d'une fine gâchette.
Maintenant, ouvre le coffre.
Si je fais ça, vous me tuerez ensuite. Il y eut un moment de silence, le temps qu'il digère cette vérité qui allait de soi.
« Non ?»
dit-il finalement.
« Je t'attacherai, c'est tout.
» Oui, exactement. Comment pourrait-il m'attacher ? Madame Richland avait parlé d'un homme de petite taille, pas plus grand qu'elle, soit 1m65 environ. Je mesurais 30 centimètres de plus et j'étais taillé comme un athlète à cette époque, grâce aux corvées et aux vélos. Sans complice pour me tenir en respect, il ne pouvait pas m'attacher. Impossible. C'est vrai ? Demandai-je d'une voix volontairement tremblotante, ce qui n'était pas très difficile, croyez-moi.
Oui, ouvre ce coffre.
Vous promettez ?
Parole de scout. Allez, ouvre ou je te tire une balle derrière le genou et tu pourras plus jamais danser le tango.
Ok. Si vous promettez sérieusement, réellement, de ne pas me tuer ensuite.
Objection ! Question déjà posée, comme on dit au tribunal. Ouvre ce coffre.
Outre tout ce qui me restait encore à vivre, je ne pouvais pas accepter que cette voix chantante soit la dernière chose que j'entende sur Terre. C'était inconcevable. Ok. Je m'agenouillais devant le coffre, en pensant « il va me tuer ». Et « je ne peux pas le laisser faire ». Et « je ne le laisserai pas faire ». À cause de Radar, à cause de la femme aux chaussures, et à cause de M. Boditch qui m'avait donné un fardeau à porter car il n'y avait personne d'autre à qui il pouvait le donner, tout simplement. Je retrouvais mon calme. « Il y a beaucoup d'or, » dis-je. « Je ne sais pas où il l'a trouvé, mais c'est génial. » Il a payé ses factures avec pendant des années.
Arrête de jacter et ouvre ce foutu coffre.
Et puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher...
Il y a combien ?
Oh, j'en sais rien. $1 million, peut-être. Il est dans un seau si lourd que je n'arrive même pas à le soulever. Je ne savais pas comment inverser les rôles avec ce petit salopard. Peut-être que si on avait été face à face, mais pas avec le canon d'un flingue à moins de 2 centimètres de mon crâne. Quand j'avais été sélectionné dans l'équipe du lycée, au football ou au baseball, j'avais appris à débrancher mon cerveau sur le terrain pour laisser mon corps prendre le dessus. Je devais faire pareil maintenant. Je n'avais pas d'autre option. Parfois, dans un match de football, quand on était mené au score, surtout à l'extérieur, lorsque des centaines de personnes nous huaient, je me concentrais sur le quarterback d'en face en me disant que c'était un sale fils de pute, que je n'allais pas seulement le plaquer, j'allais l'aplatir. Ça ne marchait pas très bien, sauf si le type était un frimeur qui fanfaronnait après une belle action. Mais ce type avait une voix de fanfaron, et je n'avais aucun mal à le haïr.
Arrête de gagner du temps, mon petit gars. Ouvre ce coffre, ou sinon tu ne marcheras plus jamais droit.
Je ne marcherai plus du tout, oui. Je tournais la molette dans un sens, puis dans l'autre sens de nouveau. 3 chiffres déjà. Plus qu'un. Je risquais un coup d'œil par-dessus mon épaule et découvris un visage étroit, un visage de fouine, sous une casquette des White Sox rétro, très haute, avec un cercle rouge à la place du haut de Sox. « Je pourrais en garder un peu au moins ?» demandai-je. Il répondit par un gloussement, désagréable.
« Ouvre ! Arrête de me regarder ! Ouvre !»
Je plaçai la molette sur le dernier chiffre et tirait sur la poignée. Je ne le voyais pas reluquer par-dessus mon épaule, mais je le sentais, une odeur âcre de transpiration, celle qui s'incruste dans la peau d'une personne qui ne s'est pas lavée depuis longtemps. La porte du coffre pivota. Je n'hésitais pas, car celui qui hésite est perdu. Je saisis le seau par le bord et le renversai entre mes genoux écartés. Les pépites d'or se répandirent sur le plancher dans toutes les directions. Simultanément, je plongeai à l'intérieur de l'armoire. Le type ouvrit le feu. La détonation était à peine plus forte qu'un pétard de taille moyenne. Je sentis la balle passer entre mon épaule et mon oreille. La veste d'un des costumes démodés de M. Boditch tressaillit lorsque la balle la traversa. M. Boditch possédait un grand nombre de paires de chaussures. Dora aurait été jalouse. Je m'emparai d'un brodequin, roulai sur le flanc et le lançai. Le type l'esquiva. Je lançai l'autre. Il se baissa de nouveau, mais la chaussure l'atteignit en pleine poitrine. En reculant, il marcha sur les pépites qui continuaient à rouler sur le sol et ses pieds se dérobèrent sous lui. Il tomba lourdement, les quatre fers en l'air, sans lâcher son arme cependant. Une arme beaucoup plus petite que le calibre 45 de M. Boditch, ce qui expliquait sans doute la faiblesse de la détonation. Sans essayer de me relever, je poussai sur mes cuisses. Je survolai les pépites tel Superman et atterris sur lui. J'étais grand, il était petit. L'air s'échappa de ses poumons dans un souffle. Pouf ! Ses yeux jaillirent de leurs orbites. Ses lèvres étaient écarlates, luisantes de salive.
« Barre-toi !»
brailla-t-il. Entre deux halètements. Et puis quoi encore ? Je voulus saisir la main qui tenait l'arme, manquer mon coup et recommencer avant qu'il puisse braquer le canon sur mon visage. Une seconde détonation retentit. J'ignorais où était partie cette balle. Et je m'en fichais, étant donné que ce n'était pas dans moi. Son poignet était glissant de sueur, alors je le serrai de toutes mes forces et le tordis d'un mouvement brusque. Il y eut un craquement sec et un hurlement strident. Le pistolet lui échappa et tomba sur le plancher. Je me jetai dessus et le pointai sur lui. Il poussa le même cri strident et plaça sa main valide devant son visage, comme si cela pouvait arrêter une balle. L'autre main pendait mollement au bout de son poignet brisé qui enflait déjà.
« Non ! Non ! Ne tire pas ! S'il te plaît !»
Pas un seul putain de « ah ah ». 3. À ce stade, vous devez avoir une bonne opinion du jeune Charlie Reed, je suppose. Une sorte de héros, comme on en trouve dans les romans d'aventure pour adolescents. J'étais le gamin qui avait soutenu son père quand il picolait, qui nettoyait son vomi, qui avait prié à genoux pour qu'il guérisse et dont la prière avait été exaucée. J'étais le gamin qui avait sauvé un vieil homme tombé de son échelle en voulant nettoyer sa gouttière. Le gamin qui était allé le voir à l'hôpital et s'était occupé de lui quand il était rentré à son domicile, qui était tombé amoureux de la chienne fidèle de ce vieux bonhomme, et réciproquement. J'avais accroché un revolver à ma ceinture et bravé un couloir souterrain obscur, sans parler des créatures géantes qui y vivaient, pour ressortir dans un autre monde où j'avais sympathisé avec une vieille femme défigurée qui collectionnait les chaussures. J'étais le gamin qui avait pris le dessus sur le meurtrier de M. Heinrich en renversant astucieusement des pépites d'or sur le sol pour le faire tomber. La vache, j'avais même pratiqué deux sports dans l'équipe du lycée. Grand et costaud, pas un bouton d'acné. Le garçon parfait, non ? Seulement, j'étais aussi le gamin qui avait mis des pétards dans des boîtes aux lettres, détruisant peut-être du courrier important. J'étais le gamin qui avait étalé de la merde de chien sur le pare-brise de la voiture de M. Doddy, qui avait mis de la colle dans le contact du vieux break Ford de Mme Kendrick le jour où Bertie et moi avions découvert que la portière n'était pas fermée à clé. J'avais renversé des pierres tombales. J'avais volé dans des magasins. Bertie Bird était toujours avec moi dans ses expéditions. Et c'était lui qui avait lancé la fausse alerte à la bombe. Mais je ne l'en avais pas empêché. Il y avait d'autres choses dont je ne vous parlerai pas car j'ai trop honte. Je dirais juste qu'on avait foutu la trouille à des petits gosses, au point de les faire pleurer et pisser dans leur froc. Pas si gentil que ça, hein ? Et j'étais furieux contre ce nabo, avec son pantalon de velours côtelé et sa veste de survêt Nike crasseuse, ses cheveux gras et emmêlés qui tombaient sur le front de son visage de fouine. J'étais furieux, évidemment, parce qu'il m'aurait tué dès qu'il aurait été en possession de l'or. Il avait déjà tué une fois, alors pourquoi pas deux ? J'étais furieux parce que s'il m'avait tué, les flics, sans doute emmenés par l'inspecteur Gleason et ses intrépides acolytes, les officiers Whitmark et Cooper, auraient pénétré dans le cabanon au cours de leur enquête et fait une découverte à côté de laquelle le meurtre de Charles McGee Reed était un drame dérisoire. Mais j'étais surtout furieux. Vous ne le croyez peut-être pas, mais je vous jure que c'est vrai. Parce que l'intervention de ce type me compliquait la vie. Devais-je le dénoncer à la police ? Cela entraînerait la découverte de l'or et un milliard de questions. Même si je ramassais toutes les pépites pour les remettre dans le coffre, Monsieur A.A. raconterait tout, pour se faire bien voir du procureur ou par dépit simplement. La solution à mon problème était évidente. S'il était mort, il ne pourrait plus rien dire à personne. En supposant que l'ouïe de Madame Richland ne soit pas aussi aiguisée que sa vue, les détonations n'avaient pas été très fortes, la police n'avait aucune raison de se déplacer. J'avais même un endroit où cacher le corps. Non,